Ce que j'aimerais rappeler dans ce message, ce que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que Dieu est au contrôle de tout. Et il y a une sœur qui l'a dit dans sa prière, que c'est Dieu qui contrôle tout, c'est Christ qui contrôle tout, malgré ce que nous voyons. Alors, ça m'a fait penser à l'histoire d'Ésaü et de Jacob, les frères ennemis. Hein, c'était des jumeaux. Et aussi à ce songe que Jacob va avoir un peu plus loin, lorsque il va rêver de cette fameuse échelle qu'on appelle l'échelle de Jacob. Alors, donc, Isaac a succédé à Abraham, mais il commence à se faire vieux. Il n'a toujours pas d'héritier. Sa femme Rebecca étant stérile. Il implore l'Éternel, il le prie, et l'Éternel va l'exaucer, et Rebecca va tomber enceinte. Deux fois. Donc, elle va avoir des jumeaux. Alors, bon, c'est chouette ça, hein, mais seulement, il n'y a qu'un héritier, hein, pas deux, hein. Donc, lequel des deux va être l'héritier? Qui va prendre la succession d'Isaac? Bon, ben, il n'y a pas de problème. Le premier qui sortira du ventre de la mère, eh ben c'est lui qui aura le droit d'aînesse, donc le droit d'être, d'avoir l'héritage d'Isaac. Alors c'est Ésaü qui sort le premier, et donc c'est lui en principe qui est l'aîné. Je dis en principe parce que les choses ne vont pas se passer comme ça. Mais Jacob le suit de très près. Il s'accroche, il le tient même par le talon. Alors je ne sais pas, j'ai fait des recherches sur Internet, mais j'ai rien trouvé, donc je peux rien vous assurer. Mais moi, ça me fait penser à avoir quelqu'un sur les talons, hein, quand on talonne quelqu'un. Et donc, Ésaü sort le premier parce qu'il est le plus fort. Mais Jacob s'accroche. Les deux frères grandissent et ils se révèlent avoir des tempéraments très différents. Ésaü est fort, impulsif, il aime la chasse, l'action. Aujourd'hui, on dirait le sport. Je ne sais pas s'il y avait du sport à ce temps-là. Hein. Jacob, lui, est plus posé. Lui, il préfère demeurer sous la tente avec sa maman. Une petite parenthèse ici. Nous avons des tempéraments différents. Bien sûr, l'éducation que nous recevons est importante, hein, c'est évident. Mais on a tous au départ un petit quelque chose qui fait de nous que nous sommes une personne unique. Et donc, c'est ce qui fait que notre personnalité. Mais le Seigneur nous demande de vivre en harmonie dans notre Église d'abord, bien sûr, entre frères et sœurs, bien sûr, ça c'est une évidence, mais pas seulement, parce qu'il dit dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Donc malgré nos différences de tempérament, certains sont plus impulsifs, plus nerveux, d'autres plus calmes, nous avons ce devoir d'essayer de vivre en harmonie. Et nous en sommes capables en tant que chrétiens, en tant que enfants de Dieu, nous en sommes capables parce que nous avons reçu l'Esprit Saint, le même Esprit, et donc nous devrions être capables de vivre, même si on a des tempéraments différents, nous devrions être capables de vivre en harmonie. Fermez la parenthèse. Alors un jour, Ésaü rentre fatigué, affamé, et demande à son frère, « Donne-moi un plat de lentilles, je n'en peux plus, il faut que je mange, parce que là, je vais mourir, là. Hein. » Et Jacob accepte, mais il dit, « Oui, mais à la condition que tu me vendes ton droit d'aînesse. » Alors Ésaü dit, « Qu'est-ce que j'en ai à faire de mon droit d'aînesse? Je suis en train de mourir de faim. » Et la chose se fait. Alors, je voulais faire une remarque ici, c'est que dans les mots croisés, moi j'aime bien faire les mots croisés, hein, et en 4 lettres, la définition pour Ésaü, c'est gourmand biblique. Gourmand biblique. Alors moi, je trouve que là, il y a plus que de la gourmandise, hein. Bien plus grave. Ce n'est pas simplement de la gourmandise, mais c'est un affront commis déjà contre son père, envers son père, mais surtout un affront envers Dieu, parce que Israël n'est pas n'importe quel peuple. Donc je pourrais dire Philippe dirait ouais moi je me sens pas d'étroit, moi ça m'intéresse pas, je laisse ça à mon frère, heureusement qu'il n'a pas fait. On est méchant. Non bon. Donc ici il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un affront, de dédaigner un privilège extraordinaire. Ésaü a commis un affront envers Dieu car il a méprisé le privilège que Dieu lui avait donné de conduire son peuple, le peuple de Dieu. C'est ainsi que dans Genèse 25, au verset 34, nous lisons, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est plus que de la gourmandise, hein, ça. Hein. Parce que bien souvent, on a cette image de Ésaü qui meurt de faim et qui ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. C'est très grave ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave, et Dieu nous appelle aussi à le servir. Dieu nous donne des dons, Dieu nous donne des opportunités. Qu'en faisons-nous? Est-ce que nous les négligeons pour, quand on dit un plat de lentilles, on peut imaginer quelque chose de futile, hein, toutes sortes de choses futiles. Donc ça peut symboliser toutes sortes de futilités. Alors donc, Jacob a obtenu le droit d'aînesse, mais il a encore besoin de la bénédiction du père d'Isaac. Alors, grâce à un subterfuge, Il va se déguiser. Jacob va réussir à obtenir la bénédiction d'Isaac. Évidemment, quand Ésaü va la prendre, vous imaginez qu'il ne va pas être content. Ésaü est furieux. Et il formule même le projet de tuer son frère. Il se dit, quand mon père ne sera plus là, qu'on aura fait le deuil, ben, je vais régler mes comptes avec Jacob. Et la maman de Jacob, souvent les mamans sont au courant de beaucoup de choses, hein. La maman de Jacob l'apprend et lui demande de s'enfuir, de partir et en même temps d'aller chercher une femme, parce qu'ils ne veulent pas que Jacob et Ésaü prennent des femmes dans ce pays-là, mais qu'ils aillent chercher des femmes dans ce pays, dans un autre pays. Alors donc Jacob s'enfuit, il est dans le désert, il se couche et il a un songe. Un songe que nous pouvons lire dans Genèse 28. À partir du verset 10, nous lisons « Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. » J'imagine que ce songe n'est pas venu de son imagination, hein, mais que c'est le Seigneur qui lui a envoyé ce songe. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alors, je pense que ce songe, ce rêve, Dieu ne l'envoie pas à n'importe quel moment. Il a choisi, bien sûr, le moment opportun. Moi, j'imagine Jacob dans le désert. Il a dû quitter un endroit douillet, hein, sous la tente, douillet, un endroit où il manquait de rien. Il a dû s'enfuir. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il ne connaît pas son avenir. Il est plein de questionnements. Peut-être qu'il se dit, tout ce qui m'arrive, c'est peut-être à cause de tout ce que j'ai fait. A-t-il conscience d'avoir profité d'Ésaü, profité aussi de la vieillesse et de la mauvaise vue de son père. Mais en tout cas, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que Dieu ne fait pas de reproches. Hein, il pourrait dire, tu te rends compte ce que t'as fait à Ésaü, hein? Tu te rends compte de ce que tu as fait à ton père, abuser de la vieillesse de ton père, de sa mauvaise vue, pour atteindre ton objectif. Rien de tout cela. Jacob a été choisi. Alors, on peut dire, Jacob a été choisi, et non Ésaü. Pourtant, franchement, l'un est-il meilleur que l'autre, hein? L'un est-il meilleur que l'autre? Ils ont chacun des qualités, certes, mais aussi des défauts. Mais malgré ça, Dieu va choisir Jacob, malgré ce qu'il a fait. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi si Dieu avait choisi Jacob, déjà à l'avance, puisque Dieu est omniscient, donc s'il avait déjà choisi Jacob à l'avance, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait sortir en premier? Ben, ça aurait évité quand même pas mal de trucs, hein? Non, il a laissé sortir Ésaü en premier, et d'où il y a eu l'histoire des lentilles, puis le subterfuge avec Jacob et tout ça. Si Dieu avait laissé sortir Jacob premier, ben, il aurait eu le droit d'aînesse, et voilà. Et donc on aurait évité quand même pas mal de choses désagréables. Alors j'ai deux réponses. Moi je voulais soumettre, mais vous en faites ce que vous voulez. Je pense que Dieu permet que certaines choses arrivent afin que nous puissions nous rendre compte de qui nous sommes et de ce que nous sommes capables de faire pour atteindre notre objectif. Et la parole de Dieu, d'abord, elle révèle qui est Dieu. Mais, en deuxième, elle révèle qui nous sommes. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Et donc, elle nous montre aussi nos mauvais côtés. La parole de Dieu, donc, nous parle de Dieu, bien sûr, elle nous révèle qui il est, mais elle fait un portrait de qui nous sommes. Et parfois, ce portrait n'est pas très, très, très joli. Pour ceux qui font de la photo, vous savez qu'on utilise un objectif pour chaque situation. Si vous faites un paysage, vous utilisez un grand angle, hein, ou un groupe de personnes, hein, si vous voulez faire la photo. Enfin, il y a des objectifs qui sont prévu pour chaque situation. Et il y a un objectif qui est spécialement prévu pour faire des portraits. Des portraits. Et je me souviens d'avoir lu dans la publicité que c'était un objectif qui pouvait être cruel. Parce que ça montre tout. Tout. Le moindre petit défaut, on le voit. Heureusement, on a Photoshop maintenant. Mais c'est pour vous dire que la parole de Dieu, elle nous montre qui nous sommes. En deuxièmement, je pense que Dieu a laissé les choses se faire comme elles se sont faites, c'est-à-dire que Ésaü est sorti en premier, Jacob en second. Peut-être a-t-il voulu nous prouver par là que malgré nos agissements, malgré tous les plans que nous pouvons échafauder, eh bien, c'est le plan de Dieu qui se réalise. Toujours. Toujours. Alors, chers amis, bien-aimés, comme moi, sans doute, vous êtes en ce moment troublés, inquiets, lorsque nous voyons, entendons tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On n'a même plus envie d'allumer. Ou alors on zappe, hein, quand on voit que c'est des informations, on zappe. Hein, parce que tellement ça fait peur, quoi. Alors, je dis à la réunion de prière, Michael a porté cette carte. Cette carte, vous voyez, tout ce qui est en couleur, c'est le monde chrétien persécuté. Moi, je trouve que il reste plus beaucoup de place pour le reste. Hein. Et ça s'agrandit. Ça s'agrandit. Alors, la première réaction que nous pourrions avoir, c'est d'avoir peur. Moi, quand j'ai vu ça, oula. Moi, j'ai eu peur. Ça fait peur, ça. Hein? Ça va s'arrêter où, ça? Hein? Ça va s'arrêter où? Alors, on peut avoir des doutes et se dire, mais où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi n'intervient-il pas? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça me rappelle les disciples dans la barque pendant la tempête, hein, qui secoue le Seigneur. Il dit, tu ne vois pas qu'on est en train de couler, là? Ben, c'est hein, qu'il le voit, hein, il le sait. Hein. Et c'est la même chose ici. On regarde cette carte-là et on a envie de dire, ben, Seigneur, mais quoi? Tu fais rien? Mais le Seigneur ne dort pas. Le Seigneur ne dort pas et il a son plan. Plan que nous ne comprenons pas. Et c'est vrai que moi, quand je vois ça, je me dis, Seigneur, je ne comprends pas ton plan, je ne comprends pas où tu veux en venir. Mais nous devons être convaincus que Dieu est là. Dieu est là. Il se tient au-dessus de l'échelle de Jacob. Il voit tout. Il est au courant de tout. Parce que cette échelle, ce n'est pas une bête escabelle ou une échelle de corde là. voyez, comme celles qui descendent des hélicoptères pour aller sauver les gens qui sont perdus en mer ou en montagne. C'est un escalier qui est appuyé, n'est pas posé, qui est appuyé. Et donc, pour moi, ça symbolise que Dieu a une connexion avec sa création solide. Solide. Alors, ces anges qui montent, qui descendent comme ça, tout ça c'est symbolique évidemment. Hein. Moi ça me fait penser à toutes ces millions d'informations qui passent dans les câbles Internet. Vous voyez toutes ces informations qui passent. Et donc, moi ça me fait penser que Dieu, eh bien, est au courant de tout. Il sait tout. Il voit tout, il est au courant de tout et de tous. Alors, nous devons avoir cette conviction, malgré les choses qui nous font peur, hein, avoir confiance et se dire que Dieu a un plan et ce plan s'accomplira. Alors, je vais terminer par le psaume 33, au verset 10. Pardon. À partir du verset 10, nous lisons « L'Éternel renverse les desseins, donc les projets, les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins, par contre, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. » Ça me fait penser à Dieu qui est au-dessus de l'échelle de Jacob. Là. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Donc c'est pas celui qui a la plus forte armée qui va nécessairement gagner. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. En toute sa vigueur, ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met dans lui sa joie, car nous avons confiance en son nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen.